Audiolib présente Mémoire d'un juge trop indépendant de Renaud Van Ruynbeck avec Jean-Marie Ponto. Lu par Hugues Martel. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle réponse réserve à notre effort l'univers profond. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Jean Jaurès, Discours à la jeunesse, 1903. Avant-propos. L'idée d'écrire ce livre ne m'est pas venue spontanément. Elle m'a été suggérée un soir, voici près de 3 ans, par un journaliste d'investigation reconnu, Jean-Marie Ponto. Ma réponse fut évasive. Je la différai à mon départ de l'instruction. Puis le grand jour est arrivé. Il me fallut quitter mes fonctions, mon bureau, les dossiers, définitivement. Un grand vide et ses questions. Fallait-il revenir sur toutes ces années consacrées à mon travail de juge d'instruction ? Fallait-il oser la parole après le silence contraint par ma fonction ? Mes amis m'ont incité à écrire. L'un d'eux, Hervé Robert, magistrat et historien, devait, en écho à mes interrogations, me convaincre de franchir le pas. Pourquoi ne pas témoigner sur ton parcours ? Expliquer comment a fonctionné la justice pendant plus de 40 ans dans les affaires financières emblématiques ? Dire quelles obstructions tu as rencontrées ? Exposer les défis de la justice face au pouvoir, ne serait-ce pas un éclairage intéressant pour les citoyens ? Et l'idée a fait son chemin. J'ai traversé la Ve République et traité de nombreuses affaires ayant eu des incidences non seulement financières mais aussi politiques sous 5 présidents de la République. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. À travers elles, j'ai pu observer le fonctionnement des institutions. Guidé par une volonté d'indépendance, j'ai pu mesurer l'ampleur de la soumission de la justice qui s'est exprimée dans l'action ou l'inaction des procureurs. J'ai dû franchir des obstacles et subir des blocages. Mais j'ai aussi constaté ces dernières années, peu à peu, une certaine émancipation des parquets et un infléchissement du lien de dépendance avec le pouvoir politique. J'ai aussi découvert l'univers des paradis fiscaux et les limites parfois insurmontables auxquelles se sont heurtées mes investigations. La dimension internationale de ces enquêtes m'a convaincu de la nécessité d'adopter des règles pour éradiquer ces flux d'argent opaques. Alors même qu'il est affirmé avec force que l'indépendance de la justice constitue la pierre angulaire de notre démocratie, pour quelle raison le juge d'instruction, tour à tour adulé ou vilipendé, se trouve-t-il exposé à des vents contraires, plus ou moins violents, plus ou moins sournois, dès lors qu'il enquête dans certaines affaires ? En écrivant ce livre, j'ai voulu aussi tirer les enseignements de mon parcours. Quelle est la situation actuelle ? Quelles sont les réformes qui pourraient être mises en œuvre pour libérer l'action de la justice, tant pour garantir son indépendance que pour lui permettre de lutter efficacement contre les paradis fiscaux ? J'ai tenté, pendant plus de 40 ans, de m'affranchir de ces entraves pour mettre au jour une vérité dissimulée, occultée, censurée. C'est à la fois en tant qu'acteur et témoin que j'ai décidé de raconter cette histoire. Prologue. Mardi 30 octobre 1979. En même temps que la France entière, j'apprends le suicide de Robert Boulin, ministre du Travail, découvert noyé dans un étang de la forêt de Rambouillet. Les Français sont sidérés. Robert Boulin est un homme politique apprécié. Comme le répètent les médias, il détient le record de longévité ministérielle sous la Ve République. Il a été nommé pour la première fois ministre en 1961 par le général de Gaulle. Il serait même pressenti pour remplacer Raymond Barre comme premier ministre. L'émotion est grande. Tous s'interrogent